Libre 18 mars 83 à Rimont.
Pourrait-on préciser comment seul le vrai ou la vérité, mode de l'acte, permet de rendre raison d'une façon ultime de la distinction critique entre le vrai formel et le vrai ontologique? Le vrai mode de l'acte ne nous permet-il pas de dépasser cette dualité propre à l'ordre d'une compréhension critique du vrai, tout comme, d'une manière analogue, la substance principe propre dépasse, en l'expliquant, la dualité de la substance première et de la substance seconde? Oui, je crois. Je crois qu'on peut très bien dire ça. Que de fait, c'est très vrai que le vrai, on pourrait même dire pour le bien, c'est la même chose. Vous voyez ? Parce qu'au fond, au niveau éthique, vous distinguez les diverses particuliers du bien, eh bien, il y a un dépassement métaphysique. C'est évident que la dernière vision, la vision ultime que j'ai du vrai, c'est vraiment le vrai comme mode de l'acte. J'espère que vous avez tous compris. Il y en a combien qui ont compris? Qui lève la main? Alors, j'explique. Vous voyez, vous ne disiez rien. Alors, il va nous demander. Je fais des petites expériences pour sonder le terrain. Bon, nous avions vu les divers modes particuliers de l'acte. J'espère que ça, petit à petit, vous arriverez à le saisir. Parce que c'est quand même très important. Le bien, le vrai. Les trois premiers, c'est les principaux. Donc là, il y a quelque chose. L'opération vitale, c'est beaucoup plus facile. Et le mouvement, c'est aussi. Bon, ici, on est à un niveau différent. Là, il y a quelque chose de tout à fait particulier. Et on peut mettre encore ce niveau comme ça. Pour bien expliquer que ce sont des niveaux différents. Parce que si vous mettez les trois modalités, vous savez, vous ne comprenez rien du tout. Alors, il faut comprendre qu'ici, vous êtes au niveau substantiel. Ici, vous êtes au niveau super-substantiel. C'est super-substantiel, bien. Parce que ça finalise tout. Et puis, le vrai, difficile de le qualifier, hein. Le vrai, parce que le vrai, c'est quand même quelque chose de très spécial par rapport à l'intelligence. Mais c'est sûr que le bien, regarde le point de vue de la volonté, mais c'est l'esprit qui a une volonté et puis le point de vue de l'intelligence. Alors, vous voyez la question. Pourrait-on préciser comment seul le vrai ou vérité, mode de l'acte. Le vrai mode de l'acte. J'aime mieux dire vrai mode de l'acte. J'aime mieux prendre le point de vue concret. Parce qu'on est dans un mode de ce qui est. On dit ce qui est, on divise plutôt vérité. Donc, le vrai mode de l'acte. Ce serait intéressant parce que c'est par là qu'on répondrait à Heidegger. Parce que si on met Heidegger sur la piste, vous y comprendrez encore beaucoup mieux. Donc, mais comment seul le vrai mode de l'acte permet de rendre raison d'une façon ultime de la distinction critique entre le vrai formel et le vrai ontologique. Là, nous retombons dans les scolastiques, pas décadentes, mais une bonne scolastique, le vrai formel. Le vrai formel, c'est la vérité. Là, je dis vérité. Et le vrai ontologique, c'est le vrai ontologique. Ceci repose sur ce que dit saint Thomas dans le De Veritate. Question 1, article 1, toujours revenir à ça, où saint Thomas dit que le vrai est ce par quoi, vous voyez, ce par quoi l'intelligence est déterminée. La capacité que toute réalité a de déterminer l'intelligence. Toute réalité, du fait même qu'elle existe, est intelligible. Et du fait même que toute réalité est intelligible parce qu'elle existe, elle est capable de déterminer mon intelligence. C'est une position critique, ça. Tradition hegélienne, la réalité est toujours rationnelle, et le rationnel est la réalité.
Ça, c'est la traduction hégélienne. C'est intéressant de voir les deux. Tandis que Saint-Thomas... Et voyez tout de suite la différence, j'espère. La traduction hégélienne, c'est dialectique. Donc, c'est uniforme. Tandis que pour Saint-Thomas, la réalité mesure l'intelligence. Parce que la réalité est source d'intelligibilité. Et l'intelligibilité détermine l'intelligence. Tandis que dans la traduction hegelienne, c'est justement la réalité est rationnelle, le réel est rationnel, et tout rationnel est réel. Vous n'avez plus d'ordre. Vous avez l'uniformité. La dialectique rend tout uniforme. Une fois que vous avez compris ça, vous ne pourrez plus la digérer. Mais bon, c'est ce qu'il faut. C'est pouvoir la rejeter violemment comme le poison le plus profond de notre vie. Alors on peut envoyer le mot dialectique d'une autre façon, alors en prenant la dialectique aristotélicienne, qui est tout à fait une chose. Mais le mot dialectique aujourd'hui, c'est pour ça que c'est toujours très dangereux, il faudrait dire toujours dialectique aristotélicienne. Dialectique selon un autre type que la dialectique hegelienne. N'est-ce pas ? Alors vous voyez donc, pour saint Thomas, le vrai ontologique, c'est tout simplement la propriété de la réalité, ce qui est du fait même qu'il est, a la capacité de déterminer mon intelligence. Mon intelligence est faite pour connaître le réel. Et le réel porte en lui cette capacité d'être intelligible. Le réel est intelligible, je le constate. Et toute la science repose là-dessus. Le monde possède une intelligibilité, mais pas sans doute aujourd'hui. Donc, c'est le vrai. Alors, cette distinction, vous voyez, entre le vrai ontologique et le vrai formel. C'est essayer de comprendre que la vérité n'est formelle que dans l'intelligence. Et qu'elle est fondamentalement dans la réalité. Alors, cette distinction, elle est tout à fait juste au point de vue critique. Si je confonds le point de vue critique et le point de vue métaphysique, vous voyez tout de suite la difficulté. C'est que le vrai formel est plus vrai que le vrai ontologique. Donc, c'est l'intelligence qui mesure la réalité. Ça, je crois que vous le voyez tout de suite. Hein. Je reprends. Que vous voyez bien ça, parce que ce sont des tournants qu'il ne faut pas louper. Autrement, on dégringole dans le fossé. Hein. Donc, il faut bien saisir ça. Cette distinction classique, vrai formel, le vrai ontologique. Le vrai formel, c'est la vérité que mon intelligence possède. Quand je dis ceci est vrai, je peux vous l'affirmer, la substance est principe selon la forme de ce qui est. Je vous affirme que ceci est vrai. Je vous affirme que ceci est vrai. Pierre est intelligent. Je lui fais passer un examen. Il est intelligent. C'est vrai. Mais il a une forme d'intelligence un peu bizarre, un peu particulière. Mais il est intelligent. Acceptez qu'il a une forme bizarre d'intelligence. Bon, mais il est intelligent. Je vous l'affirme. Quand je dis ça, l'affirmation que je dis qu'elle est vraie. C'est ce qu'on appelle la vérité formelle. La vérité formelle affecte l'énonciation que je dis. Telle énonciation est vraie. Pierre est intelligent. Cette énonciation est vraie. Voilà la vérité formelle. Elle est dans l'intelligence. C'est vrai que la vérité dans l'intelligence est plus manifeste que dans la réalité. Et c'est pour ça que je peux dire que la vérité formelle est dans l'intelligence et que le vrai ontologique, c'est ce qui fonde cette vérité. Mais celle-là est explicitée. Si je confonds le point de vue critique et le point de vue ontologique, je dis donc, si la vérité formelle est plus vraie que la vérité ontologique, c'est donc l'intelligence qui mesure la réalité. Vous voyez tout de suite. Très facile à comprendre. Pour éviter cette erreur, toute critique repose sur la métaphysique. Toute critique repose sur la métaphysique. Il faut bien comprendre ça. La métaphysique est première. Et je critique la critique au nom de la métaphysique. La critique n'a jamais le dernier mot. Si la critique avait le dernier mot, je ne pourrais plus rien dire. Médecin, guéris-toi toi-même. Alors, qu'est-ce que vous dites ? La critique n'a jamais le dernier mot. Et elle ne peut pas avoir le dernier mot. C'est la réalité qui est le dernier mot. Donc, c'est la métaphysique qui connaît la réalité. Alors, ici, quand je dis que le vrai mode de l'acte, ce vrai mode de l'acte, ce n'est pas la vérité formelle. C'est, de fait, la réalité telle qu'elle est capable de mesurer mon intelligence. Puisque je dis que le vrai mode de l'acte, c'est l'intelligence ordonnée à cela. C'est le jugement ordonné à cela. C'est le jugement parfait. Le jugement possédant la vérité formelle qui est tout ordonnée vers le vrai. Elle est ordonnée à cela. Donc ici, l'être en puissance. Et le vrai formel, la vraie formelle qualifiant l'intelligence, je ne dis pas que c'est la vérité formelle comme telle, mais c'est l'intelligence innocente qui est toujours en puissance à l'égard de la réalité. Je ne peux jamais dire, eh bien ce que je vous dis maintenant, je vous affirme, c'est l'absolu. Non. Jamais. Ce que je peux vous dire, c'est que je crois que ce que je saisis maintenant, c'est vrai. Demain, si je suis intelligent, je saisirai mieux. Il y a un progrès constant. Jusqu'au moment où on atteint le galactisme, n'est-ce pas ? Et alors à ce moment-là, ça va plus. Et alors on dégringole. On avait dit au père Garrigou-Lagrange, arrêtez vos cours, parce que on aura une mauvaise idée du père Garrigou. Un jour, vous me direz, arrêtez vos cours, ça dégringole. Donc, il vaut mieux s'arrêter avant, au palier, immédiatement, quand ça commence à baisser, pour garder une bonne réputation, quand même. Vous entendez qu'autrement, c'est dangereux. C'est dangereux de dégringoler trop, parce qu'alors, on viendrait des cours. Vous voyez, c'est que, ici, quand je dis que le vrai est mode de l'acte, je veux dire que le jugement vrai, parfait, est ordonné. Donc, c'est très vrai que le vrai mode de l'acte me permet de dépasser cette distinction parce que ça me permet de comprendre ceci. Ça me permet de comprendre ceci. Tandis que si je prends uniquement la distinction, je dépasse là. Tandis que dès que je dis le vrai formel, dès que je reprends que le vrai est un mode de l'acte, je peux dire que le vrai formel est ordonné au vrai ontologique. Donc, je relis. Pourrait-on préciser comment seul le vrai mode de l'acte permet de rendre raison d'une façon ultime de la distinction critique entre le vrai formel et le vrai ontologique ? Le vrai mode de l'acte ne nous permet-il pas de dépasser cette dualité, propre à l'ordre d'une compréhension critique du vrai, tout comme, d'une manière analogue, la substance principe propre la substance principe propre dépasse en l'expliquant la dualité de la substance première et de la substance seconde. Quand nous avions vu, au point de vue métaphysique, la saisie de la substance comme principe, on est au-delà de la distinction aristotélicienne dans les catégories de la substance première et de la substance seconde. Ceci, c'était au niveau des catégories. La métaphysique est au-delà, et donc permet de comprendre. Alors, c'est analogiquement la même chose, parce que vous comprenez qu'ici il y a quelque chose d'un peu différent. C'est quand substance première et substance seconde, nettement la substance principe est au-delà. Quand je dis ici vrai ontologique, le vrai ontologique n'est-il pas, vous voyez, le vrai ontologique, il est le vrai mode de l'acte, mais je le qualifie indépendamment du vrai formel. Tandis que quand je fais la distinction, au point de vue critique, vrai formel et vrai ontologique, je distingue le fondement de cette vérité. Et donc, c'est celui-là qui est relatif. Alors, voilà le mouvement critique, voilà le mouvement métaphysique. Ça vous pique tout de suite. Hein? En critique, le vrai formel réclame un fondement. Parce que le vrai formel est une relation. Toute relation implique un fondement. Et donc, en critique, la vérité formelle, qu'est-ce que c'est que la vérité formelle ? Conformité de l'énonciation à la réalité. Conformité, c'est une relation. La vérité formelle est une relation d'adéquation, une relation de conformité, c'est ça la vérité formelle. Donc, toute relation implique un fondement. Je pose donc le vrai ontologique à partir de la vérité, à partir de la vérité formelle. C'est pour ça que je mets la flèche comme ça. C'est à partir de la vérité formelle que je pose le fondement. Le fondement est relatif. Tandis qu'au contraire, en ontologie, du moins en métaphysique, je pose l'inverse, puisque j'ai ce point de vue-là. Le jugement pratique, qui est qualifié par la vérité formelle, est ordonné au vrai mode de l'acte. Oui. C'est dans ce sens-là que je vois un dépassement de la critique grâce à la métaphysique. Vous voyez bien tout ça, à peu près, dans un nuage. Vous entrevoyez quand même qu'il y a quelque chose. Qu'il y a quelque chose, hein. Alors, vous voyez, l'intérêt de ça, c'est que ça permettrait de répondre à Heidegger. Ça va se compliquer un tout petit peu. Hein. Heidegger dit ceci, et c'est un des aspects très intéressants de Heidegger. Ça. C'est pas vrai, mais c'est intéressant. Heidegger dit ceci, que toute notre philosophie occidentale a perdu le sens de la vérité. Parce que on a été obnubilé par la vérité formelle d'Aristote. Et Heidegger, lui, voit le passage de cette première conception de la vérité identique à l'être. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? C'est le dévoilement de l'être. Hein, vous savez bien, allaiter, l'étymologie, allaiter, donc dévoilement. L'été caché, à non caché. Donc il dit la vérité, c'est comme ça. Ça, c'est l'étymologie. Sinon, on voit très bien que l'étymologie, poussée à l'extrême, peut vous faire dire des bêtises. Parce que c'est très bien, allaiter. L'été caché, l'été non caché, donc dévoilement. La vérité, c'est le dévoilement de l'être. Manifestation de l'être. C'est vieux, c'est quelque chose de très juste, mais attention, hein, qu'il faut faire attention. Alors, pour Heidegger, la vérité et l'être, vous voyez, ça se tient. Vous comprenez très bien que Heidegger, dans son mouvement dialectique, comme il oppose être et étant, il oppose vérité à l'été s'identifiant à l'être, avec la vérité formelle d'Aristote qui est dans l'intelligence. La vérité formelle d'Aristote dans l'intelligence est l'analogue à l'étant. Et donc il faut s'opposer pour redécouvrir la vérité dans ce cas-là de tout à fait premier, qui est le dévoilement de l'être. Et Heidegger nous dit, ça c'est très amusant à voir, hein, que le passage se fait dans la République à propos du mythe de la caverne. Et alors Heidegger dit, le début du mythe de la caverne, c'est la vieille conception à laquelle j'adhère. Et l'autre partie de la caverne, c'est la conception aristotélicienne qui commence. C'est très très amusant, point de vue vision, vous voyez. Se servir de l'histoire pour montrer le moment où il y a la faille. La faille, c'est tout simplement le fait que cette conception primitive et fondamentale, qui est la seule intéressante, la vérité a été le dévoilement de l'être, donc qui identifie la vérité et l'être, va s'opposer dialectiquement, et bien une opposition dialectique, va s'opposer dialectiquement à la conception aristotélicienne de la vérité formelle. La vérité formelle, elle est dans l'intelligence. Donc, elle est au niveau intentionnel. C'est au niveau de l'intentionnalité. Évidemment, elle ne se balade pas tout seul, la vérité formelle. Elle est uniquement dans l'intelligence, qui est au niveau de l'intentionnalité. Elle est dans l'intelligence. Elle est immanente à l'intelligence. Donc, si elle est immanente à l'intelligence, elle est du côté du concept. Ce qui est agaçant. Qu'il faut arriver au pré-conceptuel, quelque chose qui soit avant le concept, le préconceptuel, qui doit être justement au niveau de l'être. Donc, cette vérité formelle d'Aristote, il faut considérer et ne plus regarder que cette vérité, elle était exactement comme vous abandonnez les étangs pour découvrir l'être. Il y a exactement le même raisonnement, c'est ça qui est intéressant. Alors, Heidegger voit le changement dans la philosophie occidentale au moment de la caverne, dans Platon. C'est vrai que c'est un mythe merveilleux, il faut relire de temps en temps Platon quand on a le temps. C'est le livre de chevet, le roman politique du philosophe, hein, Platon. Alors on le relit comme ça, de temps en temps. Un peu fatigué, à la fin des semestres, on lit un dialogue de Platon. On ne perd pas son temps et c'est reposant, c'est merveilleux. Extraordinaire. La République, ça met un peu plus longtemps, ça met une semaine à lire La République. On voit que toutes les erreurs sont contenues dans Platon. C'est intéressant de voir ça, ça repose, c'est très reposant de voir ça, voir La République, de lire La République, c'est merveilleux. Alors, il faut le faire de temps en temps, il faut avoir toujours un dialogue de Platon. Livre de chevet, on est fatigué, on ne peut plus faire de l'aristotélisme. C'est fatigant de faire de l'aristote tout le temps. C'est desséchant, comme diront les autres. Je ne dis pas du tout que c'est desséchant, moi. Mais faire de l'Aristote quand on reste à un niveau logique, oui, c'est desséchant. La logique dessèche. La métaphysique, on retrouve la source. Alors, c'est tout à fait ça. Ça ne dessèche pas du tout. Alors, Heidegger voit le passage entre les deux. Donc, à un moment donné, la philosophie grecque a abandonné ça. Heureusement qu'Heidegger est là pour redonner le vrai sens. Vous voyez, si je reprends ça, je dis, mais oui, c'est très vrai. La vérité est premièrement du côté de la réalité. Tout à fait d'accord. Mais ça ne s'oppose pas à la vérité formelle. Il n'y a aucune opposition. Je fais exactement la même chose entre étant et être. Oui. Il n'y a pas du tout d'opposition, mais c'est très vrai que la scolastique, ayant gardé la critique plus que la métaphysique, la scolastique est restée devant ce schème. Et le jour où ça devient un schème, ça devient très dangereux. Parce que c'est la vérité formelle qui passe avant. Et donc c'est le concept qui passe avant la réalité. Chez Suarez, la métaphysique n'est plus la métaphysique de ce qui est, c'est la métaphysique de l'idée d'être. Eh bien, la scolastique, la vérité, c'est avant tout la vérité formelle, et le vrai ontologique est le fondement. Vous voyez ? Alors Heidegger s'oppose à ça, il a raison. Il y a tout à fait raison de s'opposer à ce schéma. Il faut redécouvrir l'aspect métaphysique, ce qu'il n'a pas redécouvert, parce qu'il l'a redécouvert en opposition dialectique. Chaque fois, c'est comme ça, vous voyez. Ce serait très intéressant de mettre... Parce que ça n'a pas été assez montré, ça, par Heidegger. Parce qu'on retrouve, sur tous les échelons, je suis persuadé qu'on referait, en se servant de ces cinq modalités de l'acte, pour essayer de saisir dans Heidegger les cinq moments où il n'a pas saisi le dépassement. Il les a fait dialectiquement à la place d'une adduction. Ceci, c'est une parenthèse, mais c'est important. Tout le monde a compris à peu près. Pourriez-vous préciser ce qu'est le bien du point de vue de l'être et son rapport avec l'acte? Maintenant, c'est le point de vue du bien. On change d'enregistre. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Hein, du côté du vrai, du côté du bien. C'est plus facile du côté du bien que du côté du vrai. Parce que vous n'avez pas de bien formel. Vous avez une vérité formelle qui est dans le jugement. Mais vous n'avez pas le bien formel. Le bien formel, ce serait quoi? Ce serait l'idéal. Hein? Une espèce d'idéal. On formalise le bien en dedans de moi-même. Alors je porte un bien, un idéal. Un idéal de vie. Ce serait une valeur suprême. Une valeur suprême qui serait vraiment ça. Ce serait analogue à ça. Ça existe, hein. Ça n'existe pas dans la scolastique. La scolastique n'a pas été jusque-là. Mais la scolastique qui veut se réformer avec la phénoménologie arriverait assez facilement à ce point de vue-là. Vous voyez ? Quand Maritain veut réintégrer les valeurs en éthique, on glisse vers ça. Quand Maritain veut montrer le bien transcendant, le beau transcendantal, on glisse vers ça. Oui. C'est intéressant de voir ce glissement qui se fait. Alors, c'est le beau formel. C'est le bien formel. Or, il n'y a pas de bien formel. le bien mode de l'acte. Mais alors, je pourrais faire quelque chose d'analogue, voyez, pour bien montrer comment la métaphysique de l'acte me permet de dépasser toutes les distinctions antérieures. Quelle est la grande distinction qui existe au niveau éthique? C'est le bien et les moyens. C'est sûr. Au point de vue éthique, c'est le bien honnête, le bien utile, le bien délectable. C'est cette distinction qui est très importante en éthique. Cette distinction très importante en éthique, vous savez bien, là on touche quelque chose de très intéressant et très important à bien souligner. Cette distinction très importante en éthique, c'est le point de vue du bien. Le bien humain, il est fin. Le bien humain, il est moyen. Et le bien humain, il est honnête, honestum, très difficile à traduire. Je dirais que c'est le bien en soi, aimé pour lui-même. Il est le bien utile est toujours un moyen. Et on en ajoute qu'il est délectable. Je suis capable, et c'est ça qui serait très intéressant, je suis capable de me gargariser du bien. Là, ça serait le bien formel, le bien délectable. C'est le retour au sujet. Le sujet qui aime se délecte, le chat qui ronronne auprès du feu. C'est le bien délectable, tellement merveilleux. Alors, il ronronne. C'est l'image merveilleuse du bien délectable. C'est plus bien honnête. Bien honnête serait de regarder le feu. Mais quand il ronronne, il se replie sur lui-même. Il ne regarde plus le bien, il ne regarde plus sa faim, il se regarde. Il dit, c'est beau. Je suis celui qui au monde aime le plus. Et je me délecte d'aimer. Alors je suis dans ma propre délectation. Je me délecte d'aimer. C'est vrai qu'il y a un troisième moment, la délectation. Parce qu'il y a, de fait, une éthique qui est une éthique uniquement du plaisir. Bon. Je crois que la métaphysique du bien en acte, c'est-à-dire l'être en acte, seconde modalité, va permettre d'unifier les trois. C'est ce que dit Saint Thomas à propos de la question sainte, je crois que c'est la question sainte dans la somme, la question du bien commun. C'est pas ça la question sainte. Dans la question sainte, la prima pars, où Saint Thomas nous dit que cette distinction aristotélicienne qui est pythagoricienne avant d'être aristotélicienne. Cette distinction grecque, très importante, honnête, utile, délectable, divise la ratio boni. C'est une chose très intéressante. On n'a pas mis ça en lumière du tout. Moi, je ne connais pas d'article là-dessus. Et pourtant, ça me semble une chose très très importante. C'est une chose très importante. C'est là où vraiment on voit que saint Thomas, du côté du bien, a été plus loin qu'Aristote. Il montre que cette distinction honnête, utile et délectable fait partie de la ratio boni. Donc, c'est le bien en acte. Le bien en acte va unifier ces trois. Alors qu'au niveau proprement, éthique, il n'y a pas d'unification. Je peux dire au point de vue utile, au point de vue éthique, que l'amitié honnête est la plus grande des amitiés, et donc elle est plus utile que n'importe quelle autre amitié, et elle est plus délectable que toute autre amitié délectable. C'est très bien, je peux dire ça. Donc là, il y a déjà embryonnairement de montrer que le bien honnête fait la synthèse des deux autres. C'est vrai. Mais il y a quelque chose de plus quand saint Thomas nous montre que cette division honnête, utile et délectable est à l'intérieur même du bien en acte, de la ratio bonus. Et alors c'est très important, vous voyez, parce que ceci me permettrait de me donner une métaphysique du bien et une métaphysique de l'amour. Je l'ai déjà dit, c'est à partir de là, et on va peut-être donner ça, ça vous donnera à réfléchir. Parce que c'est quand même très important de dire ça. Au sens rigoureux, n'est-ce pas ? La métaphysique de l'être, c'est la métaphysique du bien, et la métaphysique du bien, c'est la métaphysique de l'amour. Il n'y a pas de métaphysique de l'amour indépendamment de la métaphysique du bien. Alors, une fois que j'ai compris que le bien, l'être humain, implique, honnête, utile, délectable. En réalité, je veux mettre honnête, délectable, utile. Je mets l'utile entre les deux parce que c'est un petit mutation entre les deux. Bon. Je peux à partir de là comprendre immédiatement les dimensions de l'amour. C'est intéressant. Ça. Les dimensions de l'amour. En tant que le bien est honnête, c'est-à-dire le bien en soi. Il n'y a pas de métaphysique de l'amour indépendamment de la métaphysique du bien. Alors, une fois que j'ai compris que le bien, l'être humain, implique, honnête, utile, délectable. En réalité, je veux mettre honnête, délectable, utile. Je mets l'utile entre les deux parce que c'est un petit métaxion entre les deux. Bon. Je peux à partir de là comprendre immédiatement les dimensions de l'amour. C'est intéressant, ça. Les dimensions de l'amour. En tant que le bien est honnête, c'est-à-dire le bien en soi. Le bien, parce qu'il est fin, est aimé en lui-même et pour lui-même. C'est ça le propre du bien fin. Il est aimé pour lui-même, c'est ça, honnête. Quand l'amitié honnête, c'est d'aimer l'ami pour lui-même, indépendamment et au-delà de ses qualités, indépendamment et au-delà de ses services. Je l'aime pour lui-même. Alors à ce moment-là, c'est bien l'honestum. C'est l'ami, la personne humaine qui s'impose à moi comme mon bien. Comme mon bien au sens fort, le bien de l'être humain. Alors vous voyez, à ce point de vue-là, on peut dire que l'amour est extatique. C'est vrai. Aimer le bien en soi implique une sortie de soi. Extatique. Et en même temps, l'accueil. Le bien est utile. C'est vrai. Le bien est utile. Il n'y a rien de plus utile que le bien. Le bien, donc, va servir pour moi. Il va être ma force. C'est vrai que le bien me fortifie. En même temps, il me rend vulnérable. Le bien est délectable. Le bien est délectable. Il me liquéfie. La liquefaction, comme dit saint Thomas. C'est une des propriétés de l'amour. Ça veut dire, devient doux comme un agneau, parce que c'est délectable. C'est merveilleux. Il n'y a plus aucune espèce de difficulté. J'aime, je t'aime, il n'y a plus de difficulté. C'est liquéfié. Complètement liquéfié. On est complètement à plat. N'est-ce pas ? Et c'est l'huile qui coule sur la barre d'arbre. Liquefaction. Alors, la liquefaction. Donc, l'amour implique cette liquefaction du cœur. Et c'est vrai, c'est très difficile à traduire, ça. Parce que c'est une liquefaction du cœur. Le cœur devient doux, comme une espèce de douceur, une espèce de tendresse. Et c'est vrai que l'amour implique ça. Ça, c'est la délectation. Alors, liquefaction. En même temps qu'il est liquéfié, hein, il y a toujours les deux, hein, il faut toujours voir les deux extrêmes, extatique et accueil. Il est fort, il est vulnérable. Il implique une liquéfaction. Et en même temps, il implique quelque chose qui est plus fort que tout, ce n'est pas la force. La liquéfaction, il n'y a plus de limite. toutes les bornes. Et alors je crois qu'on peut dire qu'en même temps, c'est le roc. C'est juste l'inverse. Quand j'aime bien, je suis fixé sur lui. C'est le roc. Donc vous avez là les six propriétés de l'amour. Et métaphysique de l'amour, regarderait cela. En plus, ça c'est l'illusion. En plus, je vois que le bien, puisqu'il est fin, il est à la fois alpha et oméga. Je ne peux pas aller au-delà du bien. Il est l'alpha et l'oméga. De toute la vie humaine et de toute la métaphysique. Alors, en tant qu'il est alpha et oméga, il y a de nouvelles propriétés qu'il faut saisir. Je vous les laisse saisir. Je crois que ça nous permettrait de saisir, voyez, cette métaphysique profonde de l'amour qu'on cherche, qu'elle n'existe pas. Il faut la trouver. Il faut la trouver relativement au bien. Qu'est-ce que c'est que le bien? Eh bien, le bien, c'est ce qui suscite en moi un amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Eh bien, c'est tout ça. Je dois regarder l'amour dans toute sa force. L'amour, c'est le cœur de l'homme, hein, c'est le cœur de l'homme. Le cœur profond de l'homme, c'est le cœur qui aime. C'est le nid de l'aigle. Et qu'est cela? C'est la chaleur profonde de cet amour. Alors, il est l'alpha et l'oméga. L'alpha, vous voyez, puis la ferveur. C'est vrai, le nid de l'aigle, il est chaud. En étant dans les altitudes froides. C'est la ferveur. C'est vrai, le nid de l'aigle, c'est ça, il y a une chaleur dans le nid de l'aigle. Et notre cœur profond, il est atteint par le point de vue de l'amour. Le premier amour, tout amour est fervent. C'est la ferveur. C'est l'eau qui bout. C'est quelque chose de tout à fait particulier, c'est une qualité propre à l'amour. Et c'est même la qualité, j'allais dire, la qualité primordiale de l'amour. Quand j'aime, il y a en moi une ferveur. Une ferveur. Chose de très spécial. Hein. Alors, il faudrait regarder, parallèlement à la ferveur, ce que c'est. C'est ça que je prends l'image du nid de l'aigle. Il y a la ferveur. Et peut-être, on pourrait dire, une stabilité. Vous voyez, il y a l'Europe. Évidemment, la liquéfaction et la ferveur, c'est très proche. C'est quand même pas tout à fait la même chose. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Et la stabilité, le roc, c'est pas non plus la même chose. Celui qui est fervent, la ferveur va impliquer. Parce que fervent, saint Thomas nous dit, c'est l'eau qui bout. L'eau qui bout, c'est l'eau qui dépasse toutes les limites. Quand vous aimez, il n'y a plus de frontières. C'est pour ça que quand vous êtes en face d'un douanier, vous avez toujours envie de dire aime et il n'y aura plus de douane. Je vois, c'est ça qui. Parce que les limites, les frontières, c'est quelque chose qui n'est plus, qui n'est pas. C'est quelque chose qui est une détermination. C'est nécessaire. C'est du côté de la matière, hein, les limites. Il ne faut pas l'oublier. Il en faut, hein. Il faut bien ça. C'est bien nécessaire. Mais c'est les limites. Dès que vous êtes au-delà, il n'y a plus de limites. Et c'est ça la ferveur. La ferveur, c'est l'au-delà de toutes les limites. C'est le dépassement de toutes les limites. C'est l'eau qui bout. Alors, l'eau qui bout, en même temps, vous voyez, je ne dis pas que l'amour donne le sens de la casserole, mais parce que l'amour fait dépasser, mais en même temps, donne le sens de la stabilité. Il y a une stabilité. Très curieux. Alors, la dernière note de l'amour. Hein. L'amour entend qu'il est la fin. Fidélité. La fidélité à l'amour. Ça, c'est l'oméga. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Vous aimez, alors continuez d'aimer. C'est ça, la fidélité. Et si vous n'êtes pas fidèle, mais vous tuez votre amour. L'amour réclame la fidélité. Pour être amour, il est l'oméga. Vous ne pouvez rien trouver de mieux que d'aimer. Vous avez découvert, mais très bien, continuez d'aimer. Oui. Alors, comme c'est l'oméga, c'est pour ça qu'on dit, hein, pourvu que ça dure. C'est l'oméga. C'est pas comme... La ferveur, c'est normal. La ferveur, c'est normal. Mais ça dure. Ah, la fidélité. Alors il y a une fidélité qui est quelque chose d'ultime. C'est vrai, c'est le bien en tant qu'il est ultime. Et la fidélité ne peut se comprendre qu'à partir de l'amour. Il n'y a pas de fidélité en dehors de l'amour. En dehors de l'amour, il n'y en a pas. C'est une fois que vous supprimez l'amour et que vous mettez l'amour uniquement quelque chose de temporel, vous ne trouvez plus. Alors il faut trouver cette fidélité. Et alors à côté de la fidélité, toujours les deux extrêmes. La fidélité, c'est quelque chose. Et alors je crois que c'est le renouveau constant. C'est l'image du feu. Le feu est toujours le même, il est toujours renouvelé. Alors la fidélité, parce qu'il y a un ronron de fidélité, vous savez. Le quotidien. Moi je suis fidèle, je me mets dans les ornières pour être fidèle, comme vous. C'est plus juste. Alors ça, c'est une fidélité matérialisée. La fidélité matérialisée, c'est la lettre qui tue. Vous voyez, ça c'est la fidélité matérialisée. C'est vrai, ça existe. Hein. Pour être fidèle, je vais rester dans l'ornière. Parce que le premier jour du mariage, ça a été merveilleux. Mais continuons toujours le premier jour. Première communion fervente, restons toujours premiers. Et alors vous restez avec la dévotion de l'enfant, c'est très très gentil, mais c'est pas vrai. Alors il y a le renouveau constant, le jaillissement de l'eau, hein. Le jaillissement, c'est le jaillissement constant. Et c'est vrai qu'il y a ce point de vue de l'amour, c'est l'eau vive, parce que ça reste toujours lié à la source. Un amour ne m'éloigne jamais de la source, donc il y a le jaillissement. Alors vous avez les notes particulières de l'amour. Je crois que vous pouvez avoir, comme ça, on peut dire, les 10 notes particulières de l'amour, qui sont données immédiatement par ce point de vue, qu'est-ce que c'est que l'est le bien en acte. Le bien en acte assume la division éthique, oui, assume la division éthique, pour saisir justement comment le bien, il est honnête, il est utile, il est véritable, par rapport à l'homme, il est ça. Il est en même temps le point de départ et le terme. Le commandement le plus ancien, le commandement dernier. Oui, le commandement de l'amour. C'est le commandement le plus ancien. Il n'y a rien de plus ancien, il n'y a rien de plus premier que l'amour. Et cet amour alors, implique ce point de vue de la ferveur. Le premier amour est fervent. Et le premier amour implique dans la ferveur la stabilité. Oui, c'est la vieille casserole. C'est la stabilité, je suis fixé. Bon, alors ceci, c'est pour essayer d'expliquer un tout petit peu le point de vue.